Plus de 56 000 enfants en âge scolaire ne fréquentent pas l'école dans le territoire de Mahagui en province de l'Itourie. Selon les parlementaires de cette province, plusieurs autres frais exigés dans des écoles aggravent la non-scolarisation des enfants. Dans la province du Kouilou, la société civile affirme que la gratuité à l'éducation pour les classes de première à cinquième année primaire n'a jamais été effective sur terrain. Quel bilan dressé de l'application des textes légaux sur la gratuité de l'enseignement primaire en RDC? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois M. le conseiller Jovin Moukadi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller chargé de la coopération internationale et de la coordination des partenaires techniques et financiers au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Jonas Tchombela, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, professeur Massiala Masolo. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes professeur de psychologie à l'UPN et à l'UPC, également ministre honoraire de l'éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Je le disais dans le sommaire, plus de 56 000 enfants en âge scolaire ne fréquentent pas l'école dans le territoire de Mahagui, situé à 180 km au nord de Bounia. Les autorités scolaires de cette entité ont livré ces statistiques en début 2016 au cours d'une cérémonie en présence des parlementaires de l'Itouri réunis en caucus à Mahagui Centre. Delvin Waïsala pour les détails.
Selon le sous-préfet de Mahagui 2, les résultats des enquêtes menées au début 2016 révèlent que l'âge de ces enfants varie entre 6 et 7 ans. Il ajoute que la plupart d'entre eux se livrent à des activités rémunératrices au bord du lac Albert et dans les carrières d'or pour gagner la vie. Willy Wakonga attribue cette situation à la pauvreté des parents qui influe négativement sur la scolarité des enfants.
Comme ce sont des petits enfants, il y a aussi la pauvreté des parents. Nous sommes dans la zone où la situation économique est très précaire. Cela ne facilite pas la scolarisation des enfants aux parents.
De leur côté, les députés sénateurs déplorent que la gratuité de l'enseignement au niveau primaire reste théorique car plusieurs autres frais exigés dans des écoles aggravent la non-scolarisation des enfants. Oupira Sunguma Diédoné, député national et élu du territoire de Mahagui.
La gratuité de l'enseignement à l'école primaire n'est pas encore effective. Il y a beaucoup d'autres frais qu'on agit qui ne sont même pas prévus, dont les parents sont obligés de pouvoir supporter.
Contacté, le préfet de la province de l'Itouri a déclaré qu'au niveau primaire, la collation qui est le fruit d'un compromis entre les écoles et les parents n'est pas exigée dans les écoles où les enseignants sont payés par l'État territoire de Mahagui. Bounia, Delvin Waïsala, Radio Capi.
Merci Delvin Waïsala. Dans la province du Kouilou, la gratuité à l'éducation pour les classes de première à cinquième année primaire n'a jamais été effective sur terrain. C'est ce qui ressort du forum communautaire de plaidoyer pour la gratuité, qualité à et l'accès équitable à l'éducation primaire. Ces assises ont été organisées la semaine dernière à Kikwit par le projet Vas-y Fille. On écoute Elise Kitesso, membre de la société civile, au micro de Fabien Kambizigifo.
La constitution qui est la loi mère de notre pays a prévu la gratuité à son article 43 alinéa 2 qui dit que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Il y a même des textes du ministère de l'EPSP au niveau national et provincial qui mettent en application cette mesure-là prévue par la constitution. Mais sur terrain, nous trouvons que cette mesure est nulle. Ici à Kikwit, les élèves de l'école primaire payent les frais de première en sixième année sans tenir compte de cette gratuité et n'est pas effective dans notre ville. Quand on dit que vous êtes gestionnaire, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Tous ces textes légaux sont mis à la disposition de tous les décideurs et gestionnaires des écoles. Nous demandons au gouvernement de faire le suivi, de faire appliquer les mesures qu'ils ont prises dans notre constitution. S'il n'y a pas de suivi et d'évaluation, vous voyez que tout le monde agit à sa manière. La mauvaise interprétation ou la mauvaise foi de ceux qui sont en train de manipuler ces textes-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la vie de Kikwit, on ne peut pas parler de gratuité au niveau de l'école primaire.
Monsieur le conseiller Jovin Moukadi, l'article 43 de la Constitution, disait Madame Élise dans son dernier alinéa, stipule, je cite, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics, fin de citation, et la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national définit la gratuité comme, je cite, la prise en charge par l'État des frais de scolarité de l'éducation de base dans les établissements publics, fin de citation. Monsieur le conseiller, quel bilan pouvez-vous dresser à ce jour de la gratuité dans les écoles publiques en RDC?
Merci beaucoup pour la parole. Je crois que le bilan, nous l'avons effectué sur la base d'une étude parce que comme vous le savez, la gratuité, c'est bien dans les prescrits de la Constitution, c'est bien dans la nouvelle loi cadre, mais nous l'avons voulu progressive au début, parce que sur la base des études, il est prouvé que la question fondamentale ou l'obstacle fondamental à la scolarisation des enfants est lié aux frais, aux revenus des parents également. Et il y a eu également d'autres obstacles. On a parlé ici de Mahagi, du travail des enfants. On a parlé de l'éloignement de certaines écoles. On a parlé des enfants confiés. Parce que quand un enfant est confié, généralement, on privilégie ses propres enfants que l'enfant qui vous sont confiés. Et le bilan, nous l'avons fait, je crois, aujourd'hui, il y a trois ou cinq mois, je ne me rappelle plus exactement. Au niveau global, il faut admettre qu'aujourd'hui, nous avons un taux d'admission qui est passé des 100 et 6%. Donc, le taux d'admission en première année primaire, nous sommes allés jusqu'à 137%. Ce qui signifie qu'un bon nombre d'enfants, donc entre 2010 et 2014, ont pu être récupérés par les systèmes, même des enfants en âge qui n'était plus en âge d'aller à l'école. Et aujourd'hui, le taux brut de scolarisation s'est également amélioré entre 2010 et 2014 parce qu'il est passé de 90% à 106%. Nous l'avons voulu, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a des effets. Mais aujourd'hui, par rapport à certains cas bien notés, dans des zones minières, dans des zones où les enfants sont obligés de travailler, fait que nous devons tous, le système éducatif en RDC est basé sur le principe de partenariat. Partenariat, c'est-à-dire que quand une mesure a été prise au niveau du gouvernement, pour sa mise en œuvre, il faut un suivi de tous les partenaires concernés. Nous avons cité le gouvernement, la société civile, les partenaires techniques et financiers, pour qu'ensemble nous puissions voir comment résoudre un problème qui se poserait par exemple dans les zones minières où un certain nombre d'enfants se retrouvent, comme on l'a dit, à cause de problèmes de pauvreté des parents en train de travailler. Il y a aussi des cas où la culture intervient. Dans certains milieux, vous vous retrouvez avec des situations de grossesse précoce, des situations où on défavorise la jeune fille. C'est ainsi que vous avez suivi l'exemple de Kikwit où on a parlé du projet de scolarisation de la jeune fille. Ce sont là des activités, des projets, des réformes qui permettent de répondre justement à la question de la gratuité. Parce que aujourd'hui, la situation monétaire, j'ai parlé du premier obstacle, ne nous permet pas, ça il faut qu'on soit sincère, ne nous permet pas d'exécuter ou de mettre en pratique automatiquement la gratuité par rapport aux prescrits de la Constitution.
Monsieur le conseiller,
c'est ainsi que nous l'avons voulu progressive. Et nous évoluons en évaluant
étape par étape.
Voilà. Où allons-nous, d'où nous venons, où nous allons, mais jusque-là, en résumé, c'est qu'il y a des progrès, mais il faut que ces progrès-là se poursuivent et que la gratuité soit renforcée dans l'ensemble du pays.
Voilà, monsieur le conseiller, le taux d'admission, disiez-vous, est passé de 106% à 130%. Cela ne pose-t-il pas le problème de pléthore dans les salles de classe? On a à peu près plus de 40 élèves pour un enseignant. Quelle est la qualité de l'enseignement que pourrait produire un tel enseignant?
Tout justement, le problème de la qualité aujourd'hui fait l'objet du plan décennal, du plan stratégique décennal qui démarre en 2016 jusqu'en 2025 et qui prend en compte tous les secteurs de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi, il n'y a eu que la stratégie du sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire qui a été mise en œuvre. Mais cela, nous l'avons constaté que par rapport à la qualité, il y a un problème réel qu'il faut aujourd'hui. L'accès, nous sommes en train de réussir parce que dans certaines provinces aujourd'hui, on s'approche à un taux de parité, par exemple, de 1. Et l'accent est mis sur la qualité pour la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, avec comme point de mire l'enseignant. L'enseignant par rapport à ses conditions et par rapport à sa formation initiale et sa formation continue.
Alors avant que je ne donne la parole à Jeunesse Chombela, il y a une question qui me brûle les lèvres. Vous aviez dit tout à l'heure que l'enseignement en RDC est organisé sous forme de partenariat. Dans ce partenariat, qui doit payer quoi par rapport à la gratuité? Comment ça se passe?
Je crois que la gratuité, nous lui avons donné une définition. Et puis j'aimerais dire dès le début que la gratuité vraiment totale, l'enfant quitte la maison, part, c'est difficile parce qu'il doit porter un habit, il doit manger pour aller à l'école.
Là c'est dans la responsabilité.
La gratuité, nous nous sommes dit, ce sont les frais directs. Les frais directs constitués notamment par le Minerval. Et la situation, il faut l'admettre, elle est, beaucoup de gens n'arrivent pas en milieu rural pour voir quel est l'effet de la gratuité en tenant compte du paiement des frais par les parents dans les écoles. Les écoles qui ne sont pas, où les enseignants ne sont pas payés, il y a un problème réel. Mais les écoles où les enseignants bénéficient d'un salaire, merci, il y a des progrès réels qui ont été constatés par rapport à l'afflux des enfants dans les salles de classe.
Merci, monsieur le conseiller. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Jonas Chombela, vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Vous avez suivi le conseiller Jovin Mukadi. Il y a des choses qui ont été faites. Il faut le reconnaître, a-t-il dit. C'est vrai qu'il y a encore des défis. Quelle est votre analyse par rapport à l'application de la gratuité dans l'enseignement primaire et secondaire, primaire en RDC?
Merci. Alain, et merci aussi Monsieur Jovin et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je ne pense pas que je partage parfaitement son point de vue, parce que moi, avant de venir ici, lorsque on m'a appelé pour participer à cette émission, je me suis donné la peine d'appeler toutes nos coordinations en province pour me rendre un peu compte de ce qui se passe réellement sur le terrain. J'ai appelé presque toutes les 26 provinces de notre République. Je pense ici à tous ces amis que j'ai appelés cet après-midi pour me rendre compte d'abord de leurs propres enfants s'ils ne payaient pas ou ils payaient. Et je ne voulais pas aller loin parce que c'est un peu plus que l'état du lieu de tout ce que je peux faire. Je me rends compte que tout le monde me répondait qu'il payait. Tout le monde payait. C'est vrai, il faut dire que la Constitution, vous parlez aujourd'hui de la gratuité, mais elle parle du caractère obligatoire qu'on semble oublier. Parce que ça devait aussi se sentir. Si c'était réellement gratuit, on devrait sentir ce caractère obligatoire. Et quel est le mécanisme qui est mis en place pour que ce soit obligatoire? On ne le sent même pas. Le tableau est presque sombre. Vous avez suivi le reportage de Kikwit qui nous relate cela. Malgré l'amélioration même du budget qui est en train de s'améliorer, quand vous observez très bien, la plupart des dépenses courantes sont affectées au salaire. Et c'est à peu près 90 à 93%. Les 7% qui restent sont affectés aux interventions pédagogiques, ce qui ne peut pas améliorer la situation telle que nous le pensons. Le montant loué, par exemple, par le pouvoir public ne suffit pas. Les parents prennent tout en charge. Et ils continuent même de participer de manière presque significative au financement de la scolarisation des enfants. Le frais de fonctionnement qu'on nous parle, arrive irrégulièrement à l'intérêt du pays. Je vais parler par exemple du cas de Mweka dans la province de Kasaï, où j'ai appelé, et là je parle d'un cas qui me concerne, les enfants de mon petit frère, que moi je paye l'argent, je me demande de quelle gratuité on parle. Elle est théorique, sur le papier on le sent. Et les parents qui continuent de payer ces frais d'intervention, parfois même ils participent aux faits qui contribuent au fonctionnement des subdivisions, des divisions, des inspections. C'est l'argent qui est piqué sur le parent qui est affecté pour le fonctionnement de tout cela. Donc, il y a des problèmes. Les Minerva, les parents continuent de le payer. Et je reprends même le cas qui s'est passé sur Kinshasa l'année passée. Ils savent bien les disputes qu'il y a eu entre le gouvernement provincial et le fonds de promotion de l'éducation. Je parle des choses telles qu'elles se passent. Tous ces éléments-là démontrent qu'il y a un problème. C'est que je vais arriver à cela. Il y a un problème à ce niveau-là. Il y a même une dispute ici à Kinshasa de ce fonds-là. Parlons même des enseignants que vous parlez là-bas, parce qu'on les soutient. Est-ce qu'on peut nous donner des explications sur les non-payés, les gens qui ont des matricules, qui ne reçoivent pas leur salaire? Il y en a qui ont fait 5 à 10 ans. Il y a les nouvelles unités qui n'ont pas de matricules, qui n'ont pas de salaire, mais qui travaillent. Il y en a même qui arrivent à se fatiguer parce qu'on ne paye pas, ils repartent. Il y a toutes ces questions-là qui démontrent que la gratuité est restée presque théorique. Parce qu'il y a le problème, la conscience de part du caractère obligatoire.
Mais vous avez suivi le conseiller Jovin Moukadi qui a donné le taux d'admission qui était de 106% et qui est passé à 130%.
Ça sont des chiffres. Il faut aller sur le terrain pour vous rendre compte. Les enfants qui ont commencé là, quand on a enregistré, combien sont arrivés, par exemple, jusqu'à un deuxième ou troisième? Prenons le cas d'un enfant qui a commencé en première année, qu'on a enregistré. Parce que cette effectivité, la gratuité, nous pouvons la dire de façon théorique, qu'il a commencé en 2010. On peut même évaluer un an, combien d'enfants ils ont suivi, qui sont allés jusqu'au bout, ou qui n'ont pas abandonné. Donc moi, je me méfie beaucoup des chiffres qui sont annoncés de cette manière, parce qu'on n'a pas suivi vraiment ces enfants-là pour voir qu'ils sont allés jusqu'au bout à un certain moment. Ce sont des chiffres qui s'enregistrent. À chaque rentrée, il y a toujours cet engouement. Mais combien d'enfants ont pu résister dans ces conditions d'études-là jusqu'à la fin? Ça aussi, on doit nous
le
dire.
Et donc, le système éducatif tel qu'il est conçu ne permet pas l'émergence de cet enfant à qui on veut donner une bonne éducation.
En tout cas, l'idée du constituant de 2006, je crois que l'idée est bonne. Maintenant, je partage l'idée du conseiller, des difficultés d'ordre financier qu'ils ont. Mais il ne fallait pas précipiter les choses, même pas. Il fallait peut-être trouver le mécanisme de comment commencer, par là commencer, et bien réussir qu'un modèle qui a réussi quelque part, qu'on puisse le transposer ailleurs. Or, on a fait ça. C'était vraiment à la veille des échéances électorales en 2011. Donc on a annoncé cet effet-là comme cela. Ma fait ça a été accompagné et on a rectifié la loi cadre. Tout cela, ça marchait. Mais dans l'effectivité sur le terrain, mais les reportages de tout à l'heure nous disent, les amis que j'ai appelés à l'intérieur du pays. Donc le système tel qu'il est, il favorise plus les enfants, ceux qui ont des moyens, mais les enfants des pauvres qui devaient être pris en charge. Ils ne le font pas. Ils n'arrivent pas. On a parlé de la pauvreté des parents. Mais voyez, les charges même, tout est possible. Même les frais de fameux frais de motivation. Mais ça persiste, ça continue.
Professeur Maciel Amasolo, vous êtes professeur de psychologie à l'UPN et à l'UPC, également ministre honoraire de l'éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État. Professeur, comment vous analysez la question de la gratuité en RDC? Vous avez suivi le conseiller Jovin Moukadi et M. Tchombela.
C'est une question récurrente. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille question à laquelle personne n'a pu répondre. Je ne connais pas un pays où l'éducation est gratuite, comme nous pensons ici, et que les parents envoient leurs enfants à l'école, et c'est l'école qui les habille, c'est l'école qui les chausse, c'est l'école qui les nourrit, et l'école qui donne les cahiers, et l'école qui fait tout. N'est-ce pas? Les pays que je visitais, où j'ai étudié, je prends le cas de la Suisse, effectivement, les enfants, mes enfants qui ont commencé à étudier là-bas, je ne payais pas. Mais l'État était organisé pour prendre sur mon salaire comme assistant une quantité significative pour pouvoir couvrir tous ces frais-là. Et j'enseigne ici depuis 1982, la fin de mes études en Suisse. Je ne sais pas si sur ma feuille de paye, il y a un pourcentage qui est défalqué chaque mois
pour compenser
les frais de scolarité de mes enfants. Bon, tous mes enfants ont terminé, la santé et bien d'autres. dans le pays scandinave, que je connais bien, le pays protestant, celui qui travaille remet à l'État 40% de son salaire pour pouvoir couvrir les frais généraux que l'État doit nécessairement prendre en charge. Mais ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc il faudra revoir, non pas seulement la gratuité, ni le caractère obligatoire de l'école, mais revoir l'ensemble des questions qui sont liées au soutien. Parce qu'il n'y a pas un acte éducatif qui ne soit payant. Tous les actes éducatifs sont payants. Et j'étais content d'écouter M. Mukadi tout à l'heure. Il parlait du partenariat. Mais c'est moi qui avais proposé le partenariat. Je n'étais pas ministre de l'éducation nationale à l'époque. J'étais celui qui avait convoyé la réforme, les états généraux de l'éducation. Nous sommes en 95 et 96. Parce que le système éducatif avait atteint une crise remarquable. À telle enseigne qu'on allait fermer toutes les écoles. Et nous avons, je ne sais pas quelle est cette inspiration, mais le Dieu nous a vraiment inspiré pour dire maintenant partenariat. Et partenariat n'était pas seulement le paiement de l'école par les parents, mais plutôt le fait d'être attentif, que tous les acteurs au système soient attentifs au fait que tout enfant, fille ou garçon, doit nécessairement aller à l'école. Mais pour aller à l'école, il y a des conditions. Et ces conditions n'étaient pas réunies seulement par les parents, ni par le préfet, ni par l'instituteur, ni par le ministre. Non, c'est tout le monde qui était appelé à pouvoir participer ensemble. Nous avions revu, et ça il faudra que le conseiller du ministre nous rappelle, quelle est la composition des frais de scolarité aujourd'hui. Il y avait le Minerval sur lequel nous avions beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour réduire la quantité de Minerval. Mais nous nous sommes fait du mal nous-mêmes, parce que nous avons privé au ministère et à l'État les possibilités de pouvoir subvenir aux besoins de la scolarité des enfants.
Alors, professeur, vous évoquez le cas de la Suisse, des pays scandinaves que vous connaissez très bien. Professeur, est-ce que le contexte congolais, le contexte socio-économique congolais, se prête-t-il à la gratuité de l'enseignement?
Si nous travaillons à fond, c'est-à-dire laisser la politique de côté et regarder les aspects techniques de l'éducation, nous pouvons parvenir. Vous avez dit que j'étais à l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire, secondaire, mais j'étais aussi à l'enseignement supérieur universitaire. J'ai conduit la réforme de l'éducation. J'étais au cabinet du chef de l'État, non pas comme conseiller, comme conseiller principal. J'étais l'adjoint au directeur du cabinet de l'honorable Kengo Adondo, à l'époque premier ministre, ici. Donc je connais le système, je connais plus ou moins le Congo. Donc il y a un couac quelque part qui fait que nous n'arrivons pas, c'est possible de pouvoir
offrir. Et donc c'est simplement un problème d'organisation.
C'est un problème d'organisation et de gestion, et des hommes, vous voyez, qui gèrent, qui organisent.
Alors dans les années 90, professeur, oui, vous lancez cette idée de partenariat.
95
exactement, oui. L'idée de partenariat. Oui. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la prise en charge des parents, professeur, est devenue une véritable épine dans le pied de l'organisation de l'enseignement.
On n'a pas appliqué le partenariat tel qu'il a été conçu au début.
Alors comment il devrait
s'appliquer? Aujourd'hui, se focaliser sur l'argent. Parce que Je suis allé à Ituri, dont nous parlons ici. J'étais dans les Sankuru. Dans les Sankuru, à Wembonyama, à Tchumbe. Mais les parents ne payent plus l'argent à l'école. Parce qu'ils n'ont pas le billet. Ils amènent le sac de manioc. Ils amènent le sac de riz. Ils amènent le sac de maïs. Ils ont beaucoup de riz. Donc, c'est une contribution. L'entretien de l'école. Elle n'est pas seulement faite aujourd'hui par les ouvriers de l'école. Ça peut être fait par des parents, comme dans notre paroisse. Nos paroisses sont nettoyées, pas des gens que nous payons, mais par des volontaires. Vous voyez? Donc il y a une contribution aujourd'hui qui n'a pas encore été suffisamment perçue. Et le partenariat est focalisé sur l'argent. C'est pas seulement l'argent.
Et c'est qui a pratiquement déversé l'école, selon certains observateurs. Oui. L'école est devenue un véritable commerce.
Un véritable commerce. Beaucoup de gens m'ont dit, mais Marcel, pourquoi tu n'as pas pensé à créer une école? Je dis, mais si je crée une école, il n'y aura pas d'élèves. Il n'y aura pas d'enseignants parce qu'ils vont être très exigeants. Et ils ne sauront pas tenir. Ils ne sauront pas tenir.
Merci, professeur. Monsieur le conseiller Jovan Moukadi, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Atana Zilunga, à Kananga, dans le Kasaï central. Le bilan est largement négatif, dans la mesure où l'État congolais a prôné la gratuité de l'enseignement primaire, des premières en cinquième, sans toutefois revoir la situation salariale des enseignants qui trinquent à cause du salaire infime. Comme pour trouver un moyen de survie, ces enseignants créent des frais frauduleux, ce qui rend l'enseignement coûteux. Donc l'État devrait commencer par mieux payer ses enseignants pour que ceux-ci suppriment tous ces frais qui sont une épée de Damoclès sur l'avenir de nos enfants. L'État congolais devrait commencer par mieux payer les enseignants pour que cette mesure de gratuité soit appliquée.
Monsieur le conseiller, qu'est-ce que vous lui répondez?
J'aimerais d'abord dire que notre ami Jonas que la gratuité n'a jamais été un fait politique en RDC. Parce que avant d'instituer la gratuité, il y a eu des études. Nous sommes allés en Tanzanie, en Ouganda, partout dans beaucoup de pays africains où la gratuité a été mise en œuvre.
Où ça marche?
Ça n'a pas marché tout justement parce que c'était des faits politiques. Et c'est comme ça que, sur la base de ces études, nous avons décidé, le gouvernement a décidé, après avoir, été instruit par le chef de l'État, qu'on puisse aller progressivement. Ensuite, j'aimerais dire, par rapport à l'achèvement que Jonas a parlé, dont Jonas a parlé tout à l'heure, Nous étions en 2001-2002 à 29% d'enfants qui ne terminaient pas, qui n'arrivaient pas en cinquième primaire. Aujourd'hui, nous sommes à 69%. Nous avons parlé de partenariat, le professeur Martial que je salue. Aujourd'hui, les parents participent à l'éducation des enfants. Et là, je crois que Son Excellence Macaire a toujours félicité cet élan de ménages congolais qui ont accepté depuis les années 90 où nous avons connu les effets de l'ajustement structurel de cette prise en charge de l'éducation. Parce que sans éducation, il n'y a pas de développement. Et pour répondre à notre ami qui Athanase, dire que c'est un échec, je ne peux pas l'approuver parce que les statistiques que nous avons, il faut quand même admettre qu'il y a un progrès réel dans le domaine de l'enseignement aujourd'hui en République démocratique du Congo. Par rapport à la prise en charge, parce que le gouvernement à un certain moment s'était retiré pratiquement désengagé du secteur de l'éducation. Aujourd'hui, le gouvernement refait surface et il est là pour justement mettre en place des réformes, améliorer le budget de l'État, payer les enseignants. C'est vrai,
monsieur
s'il
le
vous plaît, je veux répondre.
Monsieur le conseiller,
payer les enseignants.
Vous avez toujours la parole, monsieur le conseiller, mais tout cela devrait normalement passer par un budget suffisamment fourni que vous n'avez pas.
Mais le budget, il était de combien en 90, après le programme d'ajustement structurel? Il était de combien?
Et aujourd'hui,
c'était
il est à combien?
C'était à 3%.
Et il reste précaire.
Aujourd'hui, nous sommes à 16%. La moyenne en Afrique subsaharienne est de 20, 21, 22%. Et il ne faut pas croire à des effets miracles pour dire qu'aujourd'hui, toute l'ardoise, je crois que le professeur Martial a abordé cette question, tout ce que nous avons enduré pendant 20 ans, vous pensez qu'en 4 ans, on peut tout effacer. Je vais aborder le problème parce que le pourcentage alloué au secteur de l'éducation a commencé à baisser à partir des années 80. Et aujourd'hui, nous sommes en train de remonter, mais avec quels effectifs? Pour la paye des enseignants, vous savez ce qui s'est passé dans ces pays avec le programme d'ajustement structurel. Tout enseignant a été considéré nouveau, était considéré comme un enseignant fictif. Nous-mêmes, quand les systèmes de paye veulent que nous puissions commencer, nous, à recenser les enseignants, à porter le listing au niveau du ministère de la fonction publique, budget.
Donc il y a tout un parcours à suivre.
Si le gouvernement avait décidé d'avoir des NP, tout justement c'était pour nous, du secteur,
merci,
de dire, ces gens-là sont en train de travailler,
merci.
Ils ont le droit à les salaires.
Merci monsieur le conseiller. Je
et aujourd'hui nous sommes restés à peu près à 40 000 enseignants du primaire.
Merci.
Qui attendent les salaires.
Merci, monsieur le conseiller. Jonas Tchombelam, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
C'est tout le monde depuis Kisangani. Le bilan est tellement négatif parce que cette loi n'est pas respectée par les écoles. Dans beaucoup d'écoles, comme dans le territoire de Kisangani, les enseignants demandent aux élèves de payer quelque chose pour leur prise en charge, surtout les enseignants qui ne sont pas payés par l'État. Au départ, cette pratique ne concernait que quelques classes, mais actuellement, c'est toute l'école qui paye cet argent. À mon avis, on a changé seulement l'appellation des primes pour celle des prises en charge des enseignants. Donc, cette loi bafouille.
Voilà, Jonas Tchombé, la prise en charge des parents, ça reste un vrai problème. Il y a quelques mois, au Sud Kivu, la NAPECO avait pratiquement décidé de ne plus payer ces frais-là, mais s'est ravisé après. Nous avons sur ce plateau le père de la prime de l'enseignant. Ne faudrait-il pas finalement mettre fin à ce système?
Ah ben, le problème est là. C'est comme ça que je dis que les constitutions ont pris la décision, mais ils n'ont pas pris aussi le mécanisme comment on peut accompagner la réalisation de ce travail. Même ce que le professeur Martial vient de dire, ça me réconforte moi, parce que le problème c'est que il ne suffit pas qu'on annonce, mais il faut aussi que ça ait l'impact. Parce que là, les bénéficiaires n'arrivent pas à sentir l'impact. Le compatriote qui appelle là, il ne sent pas l'impact. Les écoles sont devenues presque déliées, commerciales. Vous imaginez, les uniformes, on les donne, on fait des choses comme ça, on dit, vous dites...
Multiplicité des frais.
Multiplicité des frais. Tous ces éléments-là ne peuvent pas concourir, même aux efforts qui sont à ce que la population arrive à comprendre, les efforts du gouvernement d'accompagner de ceci. Parce que ça est un peu... Moi, j'ai l'impression que c'est précipité. Parce qu'il fallait qu'on étudie très bien et qu'on n'y aille même pas en déclarant toute la République, mais voilà, là ça s'affiche de toutes parts. Il fallait même pas commencer par une province, expérimenter, et à partir de cette province-là, nous faire l'idée, l'état des lieux, évaluer, et voir si ça peut continuer ou ça ne peut pas continuer, comment réagir avant d'étendre la mesure. Maintenant, c'est généralisé à tel point qu'on ne sent même pas l'effet de l'accompagnement. Ça marche. Nous savons qu'il y a des petits efforts qui sont fournis. Mais aussi, à côté de ces efforts, il y a les partenaires extérieurs qui accompagnent cet effort local. Mais cet effort local n'est pas perçu par la communauté bénéficiaire, donc les parents. Ce qui fait que cette question de prise en charge persiste, change d'école. Et surtout les écoles qui sont sous l'emprise même des églises. Ils ont même mis aussi d'autres montants.
Des frais de construction.
Moi, je paye là où il y a mon enfant. Il sait que ça se passe, les frais de l'État. Ça n'a pas de signification, mais je suis en train de payer ça. Parce que l'enfant est mis dehors. Malgré que le ministre prend les décisions, j'ai suivi une de ces décisions qu'il a dit que non, on ne peut pas chasser un enfant. Mais je vous donne rendez-vous, c'est lundi. Nous allons encore, les enfants vont rentrer. Vous verrez que les enfants, certains seront dehors. Mais il y a un problème de ce qui a été mis en place, j'allais dire. Ça n'a pas été bien réfléchi pour que ça avance. Deuxièmement, il y a l'insuffisance de l'autorité d'État pour accompagner ces mesures, ce qui fait que les gens s'en passent. Ils décident comme ils veulent, ils peuvent fixer les frais comme ils veulent, ils ont donné des prises en charge, des motivations, des frais d'État. Il y a toute une litanie de frais que le parent paye et il n'arrive pas à comprendre. Le parent lui-même, son pouvoir d'achat ne s'est jamais amélioré.
Alors la gratuité, je posais la question au professeur Martial, est-ce qu'elle se prête à un contexte comme celui de la RDC?
Ben écoutez, je pense que... Le professeur a bien répondu, mais il y a une chose. Notre pays a trop de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. C'est un secteur qu'on ne peut pas aussi négliger. Il y a des efforts qui sont fournis, mais ces efforts ne sont pas perceptibles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait revoir le système éducatif congolais. Comment nous pouvons faire? Quand on parle de la gratuité, là, on ne pense pas que l'État va prendre tout en charge. Ça, c'est pas ça. Nourrir cet enfant-là, c'est le parent. S'il tombe malade, moi-même le mien, le bras s'était cassé. Quand même, je paye la sonasse.
Jamais on n'a utilisé cet argent. C'est encore moi qui est allé encore faire soigner mon enfant. Vous voyez, il y a autant de questions qui ne sont pas résolues. Est-ce que ce n'est pas question le moment même d'évaluer ça? Parce qu'ils ont eu le temps d'évaluer ça. Je crois que c'est au mois de... si mes documents ils sont proches, ils ont eu le temps d'évaluer cette question le mercredi 28 janvier 2015. Ils ont eu à évaluer le système de gratuité. Est-ce que, je crois que M. Moukadi nous dirait par exemple, ce qu'ils ont eu à voir comme des problèmes qui se posent sur le terrain, qui peuvent être améliorés. Parce que là, la question partout, vous pouvez brader, circuler avec votre micro partout, vous verrez que les parents continuent de payer. Et ils vous disent même qu'il y a même un qui est allé loin. Comme c'est la mesure n'était pas concernée par Kishasa qui dit, allez demander à Kimbuta de venir mettre ton enfant à l'école. Vous imaginez à ce niveau-là.
Demandez au gouverneur
de venir retourner ton enfant à l'école si vous ne payez pas. Vous voyez autant de choses comme ça que les parents subissent sur le terrain. Et si ça, ça se passe comme ça, à l'intérieur du pays où l'autorité de l'État pose problème, vous imaginez?
Professeur Massiala, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Mouroula Rubenga, Moïse Valéry, je vous appelle à partir du Nord Kivu, Goma. Bien que la gratuité de l'enseignement soit constitutionnelle, mais n'a pas été appliquée jusque-là. Pour preuve, il faut voir dans les rues de Goma à partir de 9h. On voit les enfants qui traînent dans les galeries, qui reviennent de l'école parce qu'ils ont été chassés pour telle ou autre frais. Mais aussi, nous rencontrons aussi beaucoup de problèmes. Les enseignants aussi ne sont pas payés. Personnellement, je sais que s'il y a des gens aujourd'hui qui détiennent un numéro matricule, mais qui n'est pas payé. Voilà le vrai défi de l'enseignement congolais. Donc, vraiment, c'est un échec après la promulgation de la Constitution de l'État, mais jusque-là, elle n'est pas encore faite.
Professeur Massiala.
Et Goma, Bukavu, enfin tout l'Est, les efforts des internationaux sont aujourd'hui tournés vers l'Est. C'est vrai, les enfants dans la rue ou les enfants qui traînent le pas entre l'école et la maison, ce n'est pas seulement à Goma, même ici à Kinshasa. Même si je quitte l'enseignement, je suis professeur émérite, mais je suis toujours présent dans la ville. C'est pourquoi je disais au début, je pense que notre interlocuteur a très bien suivi, qu'il y a un problème général. L'éducation, c'est un fourre-tout. Nous parlons de la gratuité aujourd'hui, nous n'avons pas insisté sur l'obligation. Parce que l'obligation ne signifie pas amener l'enfant seulement à l'école. Il faut que l'école soit disponible. Il faut que les sections que ces enfants veulent choisir soient aussi disponibles.
Que l'école soit équipée.
Soit équipée aussi. Et je félicite quand même l'État, le gouvernement, le ministère aujourd'hui d'avoir mis en place le programme de 1000 écoles par an. Et là aussi, il faudra qu'on en discute. Où sont ces 1000 écoles par an qu'on construit, qui sont équipées, qui fonctionnent à plein rendement? Parce que c'est compliqué. Et la question des salaires, ce n'est pas seulement les salaires des enseignants. Parce qu'il n'y a pas que les enfants des enseignants qui sont à l'école. Les enfants de tous les fonctionnaires, les enfants de ceux qui n'ont même pas de travail, les enfants des enfants des enfants. Donc les enfants nés des femmes ou des hommes qui ne sont pas encore responsables, ceci et ça, mais ils sont des enfants. Ils doivent aller à l'école obligatoirement.
Alors, oui.
Donc, la question est globale. C'est bien d'avoir mis le système de progression. Le ministère, le même ministère aujourd'hui, a fait une démonstration. Une démonstration sur la mutuelle des enseignants. C'est extraordinaire. Et ils ont commencé par Kinshasa. Puis ils sont allés dans une des villes de l'ancienne province de Katanga. Ils sont maintenant à l'Équateur. Mais c'est salué par tous les enseignants et leurs familles. Mais ce n'est pas gratuit. Les enseignants contribuent chaque mois sur leur salaire une quantité qui est retenue pour pouvoir soutenir leur santé. On pourra y revenir à l'école quand ce sera possible.
Professeur, vous avez évoqué la question de la composition des frais scolaires.
Oui.
De votre point de vue, il y a un flou, ça ne marche pas. Comment c'était organisé?
Vous êtes revenu sur ça tout le temps, qu'il n'y a pas que les Minerval. C'est que le conseiller appelait les frais directs. Il n'y a pas que le Minerval, mais il y a la motivation, il y a le maître qui demande un œuf tout le matin à chaque enfant qui doit venir. Donc il faut disposer
de autant d'œufs, autant d'enfants.
Oui, autant d'enfants. Mais qui emporte ces œufs à la fin de la journée? Donc on a multiplié.
Et il y a des écoles même où le travail manuel est devenu payant.
Et est devenu payant. À l'université où j'enseignais, c'est même le devoir, les interrogations et tout ça, l'étudiant doit payer. Mais ça m'offusque. À mon temps, c'était pas ça. Mais la conjoncture, je ne sais pas si c'est quoi, international ou local, oblige à tout le monde de développer l'esprit de l'ICRE. Moi, je n'étais pas été formé dans l'esprit de l'ICRE.
Alors, monsieur le conseiller, Jovin Moukadi, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Quelles sont les perspectives au niveau du ministère par rapport à la gratuité? Vous avez dit que c'était progressif. Quelles sont les étapes à venir?
Bon, les étapes à venir, évidemment, il faut d'abord que nous puissions renforcer cette gratuité à travers les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire les paiements des enseignants qui nous restent, mais également progresser dans le sens de l'amélioration du salaire des enseignants. C'est très important. J'ai parlé également du partenariat. Aujourd'hui, on dit l'enseignement est décentralisé et les frais sont fixés au niveau des provinces. Après la province, mais il y a là où l'enfant étudie. Combien de parents essayent de se poser la question sur la redevabilité de l'école par rapport à ce qu'ils payent et par rapport même à la pédagogie de l'enfant? C'est ça le partenariat. Participer à l'activité scolaire. C'est très important parce que c'est à partir de là que chaque école deviendra une école d'une communauté. Et la communauté sait, je crois que l'exemple qu'a donné le professeur Martial ici, c'était d'une paroisse.
En guise de conclusion.
Ça devait être de la même manière pour l'école. Combien nous payons? À quoi sert cet argent? Est-ce que ça participe à la formation de nos Merci. Enfants? Voilà, c'est tous ces éléments-là que nous souhaitons.
Il faut
un partenariat constructif.
Merci.
Qu'il y ait redevabilité et qu'il y ait aussi... ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion basée sur les résultats. C'est très important.
Merci, monsieur le conseiller. Jonas Tchombela, le conseiller est revenu sur le partenariat. Le prof l'a également énoncé. Comment vous percevez ce partenariat?
C'est un partenariat qui pèse beaucoup plus sur les parents.
Il n'est pas gagnant-gagnant.
Il pèse beaucoup plus sur le parent et je pense qu'on doit l'améliorer et le réfléchir encore pour que finalement ça concourt au bien de ce que nous recherchons pour nos enfants. Parce que sinon, on ne peut pas laisser la charge totalement, presque en grande partie, au seul parent. Il y a l'État qui doit accompagner. Il y a les autres partenaires qui accompagnent, qui doivent être mis ensemble. Donc je pense qu'il faut réfléchir. Ce partenariat-là, il est un partenariat qui n'est pas gagnant-gagnant. Ça, c'est un. J'encourage ce qu'il dit. Il faut encore continuer davantage de mettre en place les mesures d'accompagnement. Il y a insuffisance de ces mesures-là. Et puis, leur applicabilité sur le terrain, il semble que certaines personnes s'en passent. Il faudra qu'on pense comment on peut accompagner ce travail de terrain-là pour que finalement on arrive à cela. Nous avons déjà pris les risques, alors avançons tout en corrigeant ce qui arrive. Parce que jusqu'ici, toutes les interventions que vous avez suivies et ce que j'ai eu moi au téléphone, tous disent que sur le terrain, on ne sent pas la gratuité. Et le caractère obligatoire que j'ai évoqué tout à l'heure, pourquoi on s'échappe à ce caractère-là?
Le budget était très modique. Aujourd'hui, on est à 16%. Il est en train de progresser. Il faudrait encore beaucoup plus de moyens à l'enseignement.
Bien sûr, bien sûr. Je l'ai dit à l'introduction, j'ai dit que le budget est en train de s'améliorer. M. Moukadi a bien dit. Nous partons de 300 millions à 9 milliards aujourd'hui. Et sur l'ensemble du budget du pays, nous sommes en train d'améliorer aussi dans le secteur de l'éducation, mais le mal est tellement profond que ça ne peut pas se sentir très facilement. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, j'étais à Moussengamounene, à Idiofa, où les enfants continuent d'étudier encore par terre, alors que vous parlez de 1000 écoles.
Merci. Professeur Massiala, en guise de conclusion, selon vous, comment devrait-on percevoir la suite de ce processus de gratuité?
Mais puisqu'il existe le ministère, il existe des syndicats, c'est des syndicats aujourd'hui, de l'enseignement. Il existe des comités de parents qui fonctionnent. Il faudra que nous puissions, dans l'avenir, peut-être l'avenir le plus proche, convoquer une rencontre où les partenaires de l'éducation se retrouvent pour parler sincèrement Merci. De cette question.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Réalisation Guy Maté, assisté de Kelly Nkouté. Mise en onde, Héritier Sidiaka. La supervision, Martin Sebujangwe. Présentation et coordination, Alain Roumouchiche. Merci de votre attention. Au revoir.